Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un poète qui occupe l'espace culturel de la poésie à Toulouse, mais qui n'est pas là pour la bonne raison que, né en 1940, il est mort en 1986. Il s'agit de Gilbert Azam. Pour parler de Gilbert Azam, nous avons avec nous Monsieur Viguier, Pierre Viguier, qui était le directeur de l'établissement où a enseigné Gilbert Azam, dont nous allons vous parler. Mais également, il y a l'éditrice de l'œuvre de Gilbert Azam qui a été réédité, un petit recueil qui s'appelle La Marche à l'étoile, qui a été réédité dans la collection Esparto de Hasard Atelier, donc sous la direction de Elisabeth Aragon. Elisabeth Aragon, qui est familière également de cette émission, puisqu'elle est elle-même, bien entendu, aussi poète ou poétesse. Elisabeth, bonjour, merci bonjour. D'être venue. Monsieur Pierre Viguier, bonjour et merci beaucoup d'être venu. Alors, nous aurons un autre invité qui est un peu retardé parce qu'il arrive avec le bus et que le bus a de temps en temps un peu de retard. Il s'agit donc de l'abbé Jean-Claude Meyer, qui est donc aussi, qui a été un ami et un collègue de Gilbert Azam et qui est à l'origine de la réédition donc de ce recueil La Marche à l'étoile. Alors Pierre Viguier, vous êtes à même de nous parler de Gilbert Azam. Je vais quand même dire simplement que Gilbert Azam, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il est né en 1940, il est mort en 1986. Il a passé le CAPES d'Espagnol, ensuite l'agrégation, je crois que le CAPES était en 69, si j'ai bonne mémoire, voilà, l'agrégation donc quelques années après, donc agrégé d'Espagnol, et qui a ensuite rédigé une thèse très complète, très longue, sur un des grands poètes espagnols du 19e siècle, qui est Juan Ramón Jiménez, et qui est encore un des spécialistes, hein, je l'ai vérifié la semaine dernière, c'est quand même un des grands spécialistes connus donc de l'œuvre de Jiménez, du moins pour la France. Alors, qui est Gilbert Azam? Gilbert Azam, il est né avec une infirmité, c'est-à-dire que c'est un handicapé moteur. Et toute sa carrière s'est faite avec cet handicap, hein, qu'il a remarquablement surmonté quand même quand on regarde sa vie. Et donc, c'était aussi, en dehors de son œuvre de professeur et de chercheur, il a voulu collaborer à pas mal de structures hispanisantes, et comme l'Institut le Centre d'investigation sur la philosophie ibérique, par exemple, où il a été très présent, où il y a eu pas mal de communications, j'ai vu, hein, de Gilbert Azam. Et puis, il a publié, évidemment, de nombreux articles dans les revues littéraires françaises et espagnoles. Alors, il a écrit très jeune, hein, je crois qu'il a écrit, donc, vers 22 ans, exactement, je crois. Et alors, ses romans s'appellent « Au travers de son masque » et « Chargé d'un feu secret ». Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il a été connu du public. Donc, il a été connu du public très jeune. Alors, plus tard, il a publié son premier recueil de poèmes qui s'appelle Concerto pour une âme. Et ce Concerto pour une âme a été couronné par l'Académie des Chevreaux. Je crois qu'il a été couronné deux fois, parce que nous avons avec nous donc Elisabeth Aragon, qui est maître SGE de l'Académie des Chevreaux, et nous allons avoir également Jean-Claude Meyer, donc l'abbé Meyer, qui est également mainteneur de l'Académie des Chevreaux et membre également de l'Académie des Arts et Belles Lettres de Toulouse, des deux académies qui siègent à l'hôtel d'Assesa à Toulouse. Alors, remarqué par les Jeux Floraux en 1969. Et dans son dernier ouvrage, peut-on lire sur ce livre, La Marche à l'étoile dans la collection Esparto. Donc, dans son dernier ouvrage paru en 1971, Le Printemps Sauvage, donc c'est le titre de ce recueil, il a su nouer les fils d'une aventure que vivent trois jeunes gens sur la toile de fond de mai 68. Alors là, ce qui est intéressant, Monsieur Viguier, c'est d'avoir votre témoignage sur la position, ce qu'a représenté mai 68 pour Gilbert Azam, qui, on le rappelle, est né en 1940, est invalide moteur, handicapé moteur, donc sur fauteuil roulant, avec une mobilité quand même très, très réduite et toujours problématique. Grand étudiant, un étudiant excessivement sérieux, hein, puisqu'il réussit tous ses examens et il devient chercheur universitaire. Qu'est-ce que représentait pour lui le mouvement de mai 68?
Bon, difficile à dire de façon très précise mai 68. Peut-être serait-il intéressant que je vous rappelle un petit peu, les liens qu'on a pu tisser avec, oui, Gilbert Azam. Gilbert Azam, en fait, c'est un garçon que j'ai connu très jeune, puisque le hasard a fait que nous avons fréquenté le même établissement scolaire dès le collège. Il était, comme vous l'avez précisé, handicapé moteur, donc il avait des difficultés motrices, bien entendu, donc il était sur un chariot qui était le plus souvent mené par son père ou par sa mère. Et donc, il a atterri en sixième dans un établissement qui s'appelait le pensionnat Saint-Joseph, qui était situé rue de l'Étoile, pour la bonne et simple raison que c'était le seul établissement qui, à l'époque, a bien voulu accepter un garçon qui sortait un petit peu de l'ordinaire, qui avait une certaine différence. Donc, je l'ai connu dès la classe de sixième, et c'est clair que, passé le petit étonnement qui a consisté à avoir au sein de la classe un jeune qui n'avait pas les mêmes capacités physiques que nous, il a été très rapidement intégré et ça a été pendant un bon moment un copain de classe comme l'étaient tous ses autres camarades. Il se trouve que petit à petit, avec Gilbert, j'ai apprécié ses qualités d'écoute, son sens de la critique, ses capacités intellectuelles, parce que, faut peut-être bien le dire, mais tout au long de son parcours scolaire, il a été en tête de classe. Et, ma foi, c'est une chose qui était appréciée, et de ses professeurs et de ses parents, et qui lui a lui-même permis d'acquérir les bases nécessaires pour la suite de ses études. Donc, nous avons tissé une relation qui est devenue, au fil des années, amicale. Cette relation a été largement facilitée par le fait qu'il bénéficiait d'une famille très aimante et très proche. Son père tenait un salon de coiffure, dans les derniers temps du reste avenue Jean Chouet, pas loin d'ici, et sa maman était à la maison. Sa maman s'appelait Mercedes, avec un petit accent ibérique. On comprend sûrement l'intérêt qu'il a porté vers les études espagnoles. Cette amitié s'est développée au fil des temps. La vie professionnelle des uns et des autres a fait que nous sommes un petit peu perdus de vue, mais nous avons toujours communiqué, même lorsque j'ai dû partir en région parisienne, épistolairement, et il m'a toujours fait part de son parcours, des difficultés notamment qu'il avait connues, et au contraire de ses projets. Et il me souvient d'une lettre notamment très, très sentimentale, très affective, qu'il m'avait adressée au moment où il a connu et convolé en de justes noces avec son épouse. C'est une lettre assez particulière et que j'ai beaucoup rapprochée avec certaines des poèmes que j'ai pu lire dans son dernier recueil. Si j'avais quelque chose, comment dirais-je, à retenir de Gilbert, c'est ce que j'ai pu vivre avec lui les dernières années de sa vie. Il se trouve que le destin, le hasard, on l'appellera comme on voudra, a fait que dans les années 80, monsieur le recteur m'a confié la direction de l'établissement du Parc Sainte-Anne à Ramonville, dans lequel Gilbert Azan enseignait. Je redoutais un petit peu cette présence de Gilbert comme étant un des collaborateurs, en quelque sorte. J'ai été excessivement surpris et heureux de trouver chez lui une chaleur et un accueil incroyables. Et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, notamment ses qualités pédagogiques et l'intérêt que les élèves apportaient à ce grand chercheur. Bien entendu, comme tout le monde, j'ai beaucoup regretté son départ prématuré. Et je l'ai d'autant regretté qu'il me souvient d'une petite anecdote que je garde en mémoire. Nous sommes en 1986. Il frappe à mon bureau et me demande à ce qu'on puisse avoir un petit entretien, ce que, bien entendu, qu'il eût accordé aussitôt. Et il venait me voir pour demander autorisation de se rendre au congrès de Salamanque. C'est un congrès qui était pour lui excessivement important parce qu'on devait lui faire en quelque sorte l'honneur de participer à l'université de Salamanque. Le destin n'a pas voulu qu'il s'y rende et c'est bien entendu avec grand regret que nous avons vu Gilbert Azan partir. Qu'est-ce que je peux retenir de Gilbert? Moi, je crois deux choses importantes. La première, c'est que j'ai toujours admiré son courage et sa résilience. Le handicap moteur n'a jamais été pour lui un obstacle à son accomplissement aussi bien intellectuel que familial. J'ai aimé en lui cet homme de passion et d'exigence, exigence pour lui-même et pour les élèves dont il avait la charge. Et puis, quelque chose qui résume peut-être sa vie, je considère que Gilbert Azan a été et restera un humaniste, au sens vraiment fort du terme. Hein, celui qui est ouvert aux autres, est ouvert sur la culture, est ouvert sur tout ce qui peut être de nature à provoquer la réflexion et l'aide aux autres. Entre parenthèses, l'ouverture aux autres a fait qu'il avait à peine 30 ans. Il a créé une association qui s'appelle la PIMS, l'association de promotion pour les handicapés moteurs, qui avait pour objectif d'aider les futurs étudiants sur le campus de Rangueil pour leur permettre de poursuivre les études, alors qu'à l'époque, au seul motif de leur handicap, on était en quelque sorte barré d'études universitaires. Cette association existe encore. Philippe Boissière, qui est le président et qui est lui aussi un handicapé moteur, assure la présidence, aidé par Christian Enaf, qui en est le secrétaire. Si je pouvais résumer en quelque sorte, au-delà des péripéties et des anecdotes, la qualité première de Gilbert, c'est qu'il a eu, et je crois que c'est une qualité que, hélas, devient rare aujourd'hui, il a eu ce qu'on peut appeler l'intelligence du cœur, tout au long de son parcours.
Merci donc pour ce témoignage. Vous avez parlé de cette association dans laquelle il s'est effectivement beaucoup investi. Il y a des traces d'ailleurs, puisque on parle encore de lui dans cette association. Est-ce qu'il vous parlait de son œuvre poétique, de sa création poétique, ou des poètes espagnols qu'il lisait?
Tout au long de son parcours scolaire, absolument pas. Je crois que c'était même pas à l'ordre du jour, puisque son premier recueil de poèmes, Concerto pour une âme, est très 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 loin, de ce qu'il a fait ensuite au niveau de son travail de réflexion sur les poètes espagnols. Donc j'ai eu pendant un bon bout de temps, peu de contact avec lui là-dessus. Par contre, il m'en a beaucoup parlé, effectivement, à partir des années 80, quand j'ai pu reprendre contact avec lui et avoir une relation plus proche, y compris en me rendant à son domicile toulousain. Il m'en parlait, effectivement. Pour lui, c'était une aventure extraordinaire. Et je sais qu'une fois de plus, pour en revenir à cette demande qu'il m'avait faite en 1986 de se rendre à Salamanque, c'était pour lui une raison d'être. C'était une raison d'être, c'était tout son être qui était dans cette démarche de relation avec Jiménez, avec tout ce qu'il a pu apporter. Et je sais combien il m'avait dit que tout ce qu'il avait pu écrire par la suite avait... J'avais pour essence la pensée de Jiménez. On retrouve du reste. Hein. Oui. Je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais je pense que peut-être notre ami Jean-Claude Meunier nous en parlera. Oui. Mais effectivement, ça a un lien très, très tenace.
Hein. Oui, tout à fait. Alors, Elisabeth Aragon, c'est la première fois que Hasard Atelier publie une œuvre posthume.
Alors oui, parce que tout à l'heure tu disais que c'était une réédition, mais non, c'est une édition.
Oui, c'est une édition. Ça n'a jamais été...
On m'a parlé du projet, c'était sur l'abbé Meyer et toi. Oui. Moi, je connaissais pas Gilbert Azam. Oui. Et en fait, on s'est retrouvés face à des feuillets dactylographiés, presque effacés. Donc, c'était évident pour moi, il y avait le lien avec l'Espagne, puisque ma collection... C'est une collection franco-espagnole. Donc il y avait ce lien. Il y avait le lien avec Juan Jiménez aussi, que je réinvite à lire. Et puis pour les enfants, de lire et adultes, Platero et moi. Pour moi, c'est tellement essentiel. C'est un peu à l'image du Petit Prince. Autant lire aussi Platero et moi. Et donc il y a eu comme quelque chose d'une évidence à faire ce livre, à redonner corps, en quelque sorte, à Gilbert Azam.
Oui.
Et il a été important pour moi aussi de rencontrer Josette Azam, de me déplacer, d'aller la voir, parce qu'elle est malvoyante.
L'épouse.
Lui expliquer le projet, lui expliquer ma démarche aussi, en tant que... éditrice, je suis partie à une maison d'édition, mais je dirige une collection de poésie. Voilà. Et d'arriver à la finalité du livre... avec le bonheur d'avoir eu la préface de M. Philippe d'Azébreu, qui est secrétaire perpétuel aussi de l'Académie, mais qui ne connaissait pas non plus l'œuvre de Gilbert Azam. Ça faisait pont entre l'histoire, la place qu'il a pu avoir à travers les prix à l'Académie, une continuité et une découverte poétique.
Oui. Oui. Alors, merci d'avoir corrigé. Il ne s'agit pas d'une réédition. Hein. Ce qui serait peut-être envisagé, d'ailleurs, de reprendre peut-être aussi l'œuvre poétique d'Azam.
Il faut voir l'aventure éditoriale. Il est contraint.
Mais d'une publication posthume. Hein, c'est-à-dire, ce sont ces derniers textes, en définitive, qui ont été, grâce à cette maison d'édition, Hasard Atelier, qui sont maintenant passés. Qui vont passer dans le domaine public, puisqu'ils sont publiés.
Ils sont publiés.
Voilà. Je vais lire cette préface de Philippe d'Azébreu, dont le secrétaire perpétuel de l'Académie des Jeux Floraux, qui a lu donc ce recueil dont nous allons parler. Nous allons en lire également évidemment des extraits, et qui a commis cette préface qui est une synthèse absolument fulgurante de l'œuvre de Gilbert Azam. Et c'est d'autant plus remarquable que, effectivement, Gilbert Azam, n'étant pas quand même excessivement connu, du moins par la génération d'après, il a dans cette préface, il a trouvé quand même tout ce qui va préoccuper et synthétiser la pensée poétique de Gilbert Azam. Je le dis donc. L'une des nombreuses forces des poètes est de passer le temps et de nous atteindre quand rien ne nous attache plus à eux. Gilbert Azam, deux fois lauréat de l'Académie des Jeux Floraux, est mort en 1986. Il avait 46 ans. Je ne l'ai pas connu. Et voici que par ce recueil, sa figure se dessine. Et voici que sa déposition au temps d'hier vient à nous et nous parle encore. Du moins, s'adresse-t-elle à ceux qui ne se résolvent pas à admettre que la nature de l'homme se réduit à sa seule matière. On est loin cependant, avec Gilbert Azam, de survoler le monde et de se vendre à l'évanescent, loin encore de siéger dans le temple des concepts ou de rester dans l'au-delà des choses. Il est le poète de l'exposition pudique de toutes les tensions intimes par lesquelles un être cherche la paix que lui disputent ses sens. Pour qui croit que l'âme existe et qu'il faut la sauver, il trouvera ici un frère de douleur qui, dans sa plainte, nous assigne aux abords des abîmes. Le moment que le poète choisit est celui de Noël. Ça, c'est tous les poèmes dont les poèmes de ce recueil, dont c'est Noël. L'heure de la lumière promise par les fils d'Israël et offerte à l'humanité entière. Le moment était attendu. Il est maintenant venu au cœur de la nuit. Il faut qu'il en soit ainsi pour que l'étoile ait son rôle. Je rappelle le titre donc de ce recueil, c'est « La marche à l'étoile ». Cette nuit, répétée à l'infini, sera celle d'où l'homme fécondera son espérance, mais tout aussi bien celle qui, à la mesure de l'homme seul, pourrait ressembler à celle durant lesquelles l'âme se clôt en elle-même et s'abandonne à ses propres ténèbres. Le doute y est alors établi en souverain. L'appel d'une sensualité affamée y trouve l'écho de l'absurdité de l'existence. Certes, étancher ses soifs sature l'instant du plaisir recherché. Certes, la fusion des corps, un instant, atteint le sublime de l'anéantissement de soi. Mais il n'y a pas là de vraie communion. N'est-il pas interdit à l'étreinte d'appartenir à la durée? Gilbert Azam nous met ici en garde. Croire saisir les fulgurances de l'éros renvoie inéluctablement à toutes nos limites et donc à notre pitoyable finitude. On sent poindre dans ce chant douloureux un colloque difficile, un débat qui s'engage dans les apories. Et la femme ne serait donc pas soumise à secourir le poète? L'amertume des échecs revient alors incessamment comme le sac et le ressac d'une mère dévoreuse des traits de côte. L'issue serait dès lors d'accepter la souffrance de sa condition d'homme. Il ne s'agirait pas non de renoncer ni de résigner, mais de consentir à l'offrande de toutes ses brûlures, de sa misère même, au Verbe fait chair. Gilbert Azam, dans ce cheminement, ouvre une voie et retrouve la lumière livrée au monde. Ramené à l'éphémère, le poète, au lieu de suivre sa course de plaisir épuisé pour n'être jamais contenté, évase le champ de l'existence à ce Dieu qui comble tous les vides et apaise tous les appétits de vivre. Dans sa nuit, le poète a enfin trouvé son étoile. Voilà. Philippe Dazébrun, donc secrétaire perpétuel de l'Académie des Jeux Floraux. Alors, il pose vraiment le fond de ce recueil, immédiatement. C'est un peu le combat de, du corps et de l'esprit, malgré tout, c'est-à-dire de l'appel de la chair, appel de la chair qui, la chair et le physique étant, je pense pour Gilbert Azam, quelque chose d'important, du fait même de sa propre condition physique, et une autre soif qui est une soif inextinguible et autrement plus puissante, qui est celle de cet engouement mystique, cet appel mystique. Voilà. Et la période de Noël, évidemment, va cristalliser un peu à la fois ce combat, mais qui est un combat qui est perdu d'avance, hein, pour la chair, puisque le côté mystique l'emporte très 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 largement. C'est donc une poésie hyper métaphysique, mais qui ne perd pas pied dans le réel. Il y a le vécu, on sent, il y a quelque chose, vous parliez de l'humanisme, cet humanisme, il ressort aussi du ton de l'ensemble de ce poème.
Moi, je dirais que c'est comme un lien de ton, en fait, ça m'a fait penser à ça aussi.
Oui, oui.
C'est un cri,
oui.
Un cri au réel,
voilà.
Un cri, une révolte.
Une complainte.
Une complainte, il y a aussi la révolte de... Oui. Voilà, de, peut-être oui. De ce qu'il vivait, de ce qu'il ne pouvait pas accomplir aussi. Et puis derrière, il y a l'image de cet amour de sa femme aussi.
Oui.
C'est
oui.
Aussi oui. À travers oui. Cette révolte et cette nuit, oui. Parce que c'est quand même la marche
oui.
Vers l'étoile, mais c'est la marche dans la nuit, vers quelque chose qui va de nouveau s'éclairer ou qui est éteint, qui se rallume. Bon, c'est une foi, oui. Mais c'est aussi évoquer cette femme. Et
oui.
C'est, voilà, et c'est...
Oui.
Et cet amour.
Qui symbolise
pour
aussi
l'amour. Pour moi, c'était très important pour ça oui. De rencontrer Josette Azam. C'était
oui.
Pas simplement.
Oui, oui, oui.
C'était aussi me présenter à elle. Oui. Parce que, voilà, il y a tout. Pour elle, d'ailleurs, ça a été un moment très, très fort. Hein, parce qu'elle n'avait pas pensé que tant d'années après, ce livre puisse exister.
Oui.
Donc, ça a été très, très, très fort. Et je suis revenue aussi la voir. Quand le livre a paru, pour qu'elle puisse le toucher, lui expliquer le choix de la couverture, enfin, voilà, que la matière prenne aussi, là aussi, qu'il y ait du corps à la matière, puisqu'elle ne pouvait pas le lire, mais qu'elle puisse aussi le vivre aussi à travers la densité du papier, le granulé, voilà, tout ça. Mais c'est vraiment, pour moi, ça a été aussi une aventure de faire ce livre, parce que c'est, voilà... C'est rendre hommage à une personne. Je ne savais pas comment il allait être reçu aussi une fois que le livre existe. Est-ce que ça allait correspondre aux attentes de M. l'abbé Meyère
ou
de Josette Azam
oui, oui,
voilà,
oui,
que,
oui.
Bon, les retours que j'ai sont très très oui. Positifs.
C'est une heure,
je pense que j'ai accompli un devoir de mémoire
oui,
à ma façon.
Oui,
j'ai remis en place au-delà
de
aussi
ça,
Gilbert Azam
ça,
au réel.
C'est,
donc,
c'est presque anecdotique ce devoir de mort par rapport à la qualité de l'œuvre.
Oui.
Parce que vraiment, c'est un poème oui. D'une puissance extraordinaire.
Oui.
Là, tu parlais de la femme. Effectivement, il y a la femme, il y a l'image de la femme. On sent cet amour extraordinaire hein, que ces deux êtres ont pu avoir. Mais en même temps, c'est un amour universel. C'est un amour qui dépasse ça.
Ça transcende,
voilà.
En fait. C'est
l'amour et ça débouche quand même sur la grande puissance de l'amour de Dieu. Hein, qui est le,
voilà.
Et là, on retrouve, bien entendu... toute l'influence de Jiménez
oui.
Dans ce côté mystique oui. Ouais, qui lui correspond totalement en fait.
Mais ce mariage avec Josette, ça a été un tournant fabuleux de son existence.
Oui.
Fabuleux. Il m'avait écrit au moment où, peu de temps après, et il m'avait dit cette rencontre avec ma femme, ça a changé ma vie. Je ne suis plus le même. Et je crois que l'inspiration, du reste, ces œuvres ont été faites après.
Oui.
Hein? Curieusement.
Curieusement. Oui. Mais... curieusement, c'est l'aboutissement. Enfin,
c'est l'aboutissement.
La révélation. C'est oser révéler par la poésie
tout à fait.
Tout cet intime.
Tout à fait.
Ce n'est plus le travail de recherche. Ça met bien sûr, il y a la part universitaire, le travail de recherche énorme.
Oui.
Mais c'est dévoilé.
Oui.
La poésie, c'est ça aussi. C'est dévoiler cette part intime
aux yeux du monde. Dévoiler sa part intime, c'est aussi un petit peu modifier son style. Il a une approche poétique qui est différente. On le voit évoluer au fil de son œuvre. Et ce dernier ouvrage, dont j'ignorais l'existence, je ne sais pas si c'est Josette qui l'avait souhaité, qu'elle soit éditée.
Elle l'avait, m'a dit qu'elle l'avait souhaité un peu après le décès, mais que ça ne s'était pas fait. Elle ne voyait pas comment le faire. Elle n'avait jamais eu. Voilà, c'était difficile.
Bravo.
Elle n'avait pas eu les moyens ou la force de le faire. Hein, je pense qu'il faut aussi survivre, entre guillemets, à la perte de son amour. Mais. Voilà, c'est pour ça que c'est une belle histoire, en somme, d'avoir accompli ce...
Alors on va écouter ce ton-là sur sa femme. « Je me tourne vers toi, femme, dont le renom proclame avec éclat la civilisation, multiplie les accords vibrants de ta guitare. En te déshabillant, que déjà je m'égare. Laisse-moi me griser de tes attraits charnels, source de vif plaisir, non de lait maternel. » Cherchons dans l'unité notre béatitude. Pourquoi donner naissance à une solitude? Moulé dans la seule nudité de ton corps, tu déploies sous mes yeux d'inaccessibles trésors. Tu es une, propre, laquée, si provocante qu'à la pointe du monde, on te voit toute ardente. Alentour, les objets tournoient dans le néon, avant de s'engloutir dans ton ventre profond. Voici que sur ta peau dérape ma conscience et sans identité bat seule l'existence. Vers ta blancheur se rue l'espace disloqué, douce agression d'unanime virilité. Captive de toi-même, offrande silencieuse, tu te soumets aux vœux de la force amoureuse. Quelle porte d'airain a tourné sur ses gonds, nous laissant accéder dans un état second à toutes les splendeurs étonnamment nouvelles où l'être se déploie sans flamme et étincelle, amour. Nos moi défunts ressuscitent en nous. Réalité du couple, enfin. Quel dieu jaloux, pour un moindre miracle, exigerait un temple? Pèse, mon âme, pèse en mes bras. Et contemple la promesse des yeux, met aux lèvres l'espoir, quand se parent nos voix de la couleur du soir. Mais la chair fascinée dit bien plus que le verbe, et la peau s'offre aux caresses comme au vent d'herbe haute. Quels orbes de prompt ravissement, un écho convulsif né simultanément. Et voici que nos mains, soudain contemplatives, dispensent la tendresse en leur lente dérive. L'effusion s'accumule en un vaste océan qui nous roule et nous noie, nous sauve et nous reprend. Aimer, 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 n'être plus, ou encore, nous perdre dans l'azur quand l'amour évapore, une essence divine aux effets imminents. Que dure l'imminence et que nos élans, à force de douceur, nous portent au délire. Oh, la pointe acérée où d'un coup tout expire. Peut-être l'infini? Non. L'amour, tel l'éclair, déchire la ténèbre et aussitôt s'y perd. Voilà. Donc, je vais m'arrêter sur ce fragment magnifique. Hein.
Je peux juste rajouter, par rapport à la mise en page aussi, on a fait le choix. Il y a le texte, mais il y a des pages où on a un regard
du texte
décalé, aussi puissant, parce que parfois ça un focus en fait. Sur,
oui, absolument. Voilà. Alors ça souligne la puissance, la puissance. Et là où il n'y en a pas, parce que bon. Il n'y en a pas. Il y a des pages où il n'y en a pas. Ça manque presque.
D'accord.
Voilà. Parce que on l'a vu, il y a un souffle dans ce poème. Il y a une ardeur qui est assez inattendue.
Pour moi, c'est un cri. Hein. C'est vraiment l'image du...
Oui, elle parlait. Ouais. Alors nous saluons l'abbé Jean-Claude Meyer, qui arrive un peu essoufflé. Oui. Merci beaucoup d'être là. Donc, nous avons fait un peu le panégyrique de la vie de Gilbert Azam. Et nous étions en train de parler donc du sens profond de cette dernière publication posthume. Et nous insistions bien sûr sur l'influence de Jiménez et le côté mystique de cette œuvre, tout en, je viens de le lire à l'instant, tout en rapprochant ce côté mystique d'un réel tangible, palpable, touchable même dans l'amour même chardel donc de sa femme, de sa femme. Voilà. Et ces deux amours, qui seront en définitive l'amour de Dieu et l'amour de sa femme, qui dans ce recueil, c'est en tout cas comme ça que je l'ai lu, se rejoignent totalement, et l'un conduisant à l'autre, d'une façon qui a l'air tout à fait naturelle et inéluctable. Voilà. Monsieur l'abbé, oui. Pouvez-vous nous dire comment vous avez reçu d'abord le jet de ce poème de Noël, et ensuite pourquoi vous avez vraiment pensé que ce texte, il fallait vraiment le faire connaître?
C'est un message d'espérance.
Oui, absolument.
Un message d'espérance avec un contexte extrêmement douloureux, un contexte de souffrance, souffrance physique. Être enfermé toute sa vie dans un corset, comme il l'a été. Un corset qu'il fallait changer au fur et à mesure qu'il grandissait. Il m'avait été donné une grâce, oui, c'était, nous étions presque voisins, en habitation, à Toulouse, et lui est près du commissariat central à l'époque, près du rempart Saint-Étienne, moi j'étais rue des Frères Lyon, en tour de cou, et il m'arrivait souvent d'y aller le samedi, quand j'étais étudiant, nous étions étudiants tous les deux, lui en lettres, moi en droit, et il m'arrivait d'aller lui servir de secrétaire, avant que Josette Mesplet ne le rencontra et devint sa femme. Oui. Et je lui ai servi donc de secrétaire, et j'ai dû taper quelques lignes de ce poème qu'il a pris du temps à le rédiger. Il y en avait un autre, mais qu'il a détruit. Un autre parce qu'il était plus incisif et il ne fallait pas que ses parents le lisent parce que ça a été trop, trop douloureux. Celui-là, il l'avait détruit lui-même. Et il m'a initié au moment de... Il préparait son diplôme d'études supérieures de lettres sous la direction du professeur Kennen, avant la thèse, avant l'agrégation même. Il m'avait initié donc à cette pensée de recherche qu'était Juan Ramón. Juan Ramón, qui avait été marqué par la condamnation roumaine du modernisme en Espagne. Cette condamnation qui fut d'ailleurs désastreuse pour toute cette élite de littérateurs espagnols, même pour Juan Ramón. Et s'étant passionné pour cette recherche, Gilbert Azam en est devenu un maître incontesté. Sa thèse d'étape après le concours d'agrégation et son enseignement en même temps qu'il enseignait au lycée spécialisé de Ramonville-Saint-Agne, détaché par l'éducation nationale, cette recherche lui avait permis d'être reconnu comme le maître incontesté à cette époque-là de la pensée de Juan Ramón. Sa thèse d'État fut d'ailleurs traduite immédiatement par l'Instituto Nacional à Madrid, et il fut reconnu alors ensuite dans les congrès auxquels il a pu participer, son épouse le conduisant en voiture jusque-là, jusqu'à Barcelone même, ou ailleurs, là où il fallait aller, et là il fut même reconnu au plan international, puisque, alors que sa fin de vie allait arriver sans qu'il s'en doutât. C'est arrivé brusquement. Un jour, la maladie s'est de nouveau manifestée brusquement, alors qu'il allait faire son cours. Et là, le chauffeur avait dû le ramener à la maison, au domicile. Mais il ne pouvait plus. Ensuite, la fin arriva très rapidement. Mais il se préparait à partir pour un congrès. Les valises étaient prêtes. C'était un congrès à Barcelone sur la pensée de Saint-Jean de la Croix. Oui, voilà cette culture immense qu'avait acquis Gilbert. Culture hispanique, et en même temps réflexion théologique et philosophique. Sa participation aux équipes de recherche espagnoles dirigées par Alain Guy en est la preuve. Il était un membre actif. Et il avait pu traduire l'œuvre majeure finale de Juan Ramón, Espacio. Une œuvre longue, très longue, et un poème long qui me semble avoir influencé la rédaction, la pensée de Gilbert pour faire une œuvre qui soit aussi un message, comme Espacio l'avait été par Juan Ramón. Espacio, c'est Gilbert qui l'a traduit, et qui a paru, la traduction a paru aux éditions Corti. Et on voit l'influence d'une part humaine de Juan Ramón, incarné dans un lieu, Moguer-la-Blanche. Gilbert a été incarné, a vécu à Toulouse et en Occitanie. D'ailleurs, il avait fait un recueil de poèmes qui fut reconnu admirable par l'Académie des Jeux Floraux à Toulouse, et qui c'est Noces d'Occitanie. Oui, Noces d'Occitanie. C'était un recueil de poèmes précédents qui avait été publié. Il était vraiment, comme Ramón avait sa chair naissante à Moguer-la-Blanche, Gilbert avait la sienne, dans cette Occitanie qu'il aimait, près de ce square Saliège, qu'il avait tant admiré, et où il se recueillait. Donc, ce courant, cette réflexion méthodique de Juan Ramón a poussé Gilbert à travailler. Il s'était passionné pour cet auteur. Il avait fait des déplacements, d'ailleurs, dans la famille de Juan Ramón pour pouvoir s'initier un peu plus à sa pensée. Au point que, en 1986, il reçut la proposition de l'Académie internationale des sciences espagnoles de New York pour être membre de cette académie internationale, et sa réception est parvenue à Toulouse un mois après le décès de Gilbert, mais il savait qu'il allait y être élu. Oui, récompense encore de ses mérites. En même temps, il était extrêmement humain, cela vient d'être dit par M. Saint-Paul. Oui, effectivement, il était très humain. Toujours, il voyait la souffrance des autres. Il voulait l'aider. N'a-t-il pas voulu aider aussi ? Il a commencé, il l'a fait. Ses anciens élèves, devenus étudiants en faculté et en université, et donc pour les aider, eh bien, il fallait faire une association. Il a monté cette association, l'Association pour la promotion des intellectuels handicapés, moteurs et sensoriels. Oui. Et la première réalisation, ce fut de créer le premier service de transport pour ces étudiants. Il y avait eu un accord avec le CROUS. Le CROUS devait fournir le chauffeur et l'association devait fournir le véhicule. Évidemment, les moyens financiers étaient limités et donc ce fut un véhicule d'occasion que des amis militaires équipèrent d'une manière solide. Voilà. Et ça, c'est ainsi a commencé ce service qui est maintenant repris entièrement, bien sûr, et ce fut fait assez vite par le Centre national et régional des œuvres universitaires. Mais il avait été à l'initiative. Et d'autres réalisations aussi dans le milieu universitaire, dans le milieu au CROUS, où il avait manifesté les besoins particuliers des étudiants handicapés physiques. Voilà quelle a été l'attitude générale de Gilbert, et au milieu de tout cela. Alors que il aurait pu être aigri. Non, il avait une espérance. Une espérance confrontée à la souffrance. Les deux étant liés au fur et à mesure de sa vie. Au fur et à mesure qu'il grandissait, au fur et à mesure qu'il était poussé dans ses recherches ou dans sa vie professionnelle. Une espérance. Bien, le Christ ressuscité. Le Golgotha d'abord, la mort du Christ, oui, l'offrande. Et la résurrection de Jésus, oui. Tout cela le guidait. Sa présence, les paroles de l'Évangile. Il nous était arrivé de prier ensemble. Méditer l'Évangile ensemble, oui. Je m'en rappellerai toujours. Et cette espérance véritable, malgré la souffrance présente, incontestable, la douleur de ne pas pouvoir marcher, de ne pas pouvoir physiquement aller aider ses élèves autant qu'il aurait voulu. Car ses élèves, c'était ses élèves. Oui, il les aimait. Il avait adapté aussi des méthodes d'enseignement de la langue vivante, de l'espagnol, pour des personnes, pour des élèves qui étaient sourds. Oui. Comment aller adapter cela? Il avait bénéficié alors là aussi de l'aide de l'inspecteur de l'éducation nationale qui l'aidait à ce moment-là. Oui, tout cela, c'était dans la collaboration, pas dans l'hostilité, non, dans la collaboration étroite avec l'autorité, l'autorité administrative, l'autorité de l'éducation nationale. Et ce sens de la collaboration n'a jamais été étranger à Gilbert, toujours avec d'autres. Mais lui était animé par cette force de la méditation spirituelle, de la méditation, oui, méditation des évangiles. Et abandon dans les mains du Christ, une recherche permanente. Et la certitude de l'avoir trouvé, comme le dit le poème La marche à l'étoile, oui, c'est ça. Je crois que j'ai un peu dit beaucoup de choses.
On a l'impression que dans La marche à l'étoile, qu'il essaie aussi d'inventer son Dieu. Ça, ce serait plutôt l'œuvre de Jiménez. C'est Jiménez, ça aussi.
C'est Jiménez, c'est lui qui invente son
Dieu.
Oui,
oui. Mais est-ce que...
Et Gilbert s'en détache. Oui. D'une autre manière, il découvre la vérité de la présence du Christ.
D'accord. Oui, c'est ce qui les sépare.
C'est un accomplissement, une marche différente. Jiménez avait été heurté par la condamnation du modernisme.
Oui.
Condamnation trop sévère, bien sûr. C'est 1903, mais la condamnation aussi de Loisy en France, et qui aujourd'hui ne serait pas condamné, voyons, bien sûr. Et Pidouze a ouvert la voie de la réconciliation, mais toute cette génération des 98 en Espagne a été marquée par la condamnation. Malheureusement. Quand Rome condamne, c'est parfois trop dur. Souvent. Même si c'est pas... S'il y a une justification, mais enfin... c'est plutôt l'amour que nous connaissons aujourd'hui davantage avec les papes récents. Et même Pie XII. Oui, il ne faut pas oublier Pie XII. Ah oui, remarquable. Remarquable et aussi méprisé, alors que il a fait ce qu'il a pu. Ce qu'il pouvait faire sans compromettre. Je ne dis pas d'autre chose sur Pie XII, mais il a agi sans compromettre ceux qui étaient menacés. Voilà.
Merci, monsieur l'abbé Meyer. Vous avez parlé des nonces d'Occitanie. Mm-hmm. Vous savez qui c'est qui a publié ce livre?
Nonces d'Occitanie. Tout à coup, j'ai un tour de mémoire. Est-ce que c'est Privat,
peut-être? Non, c'est Bruno du Rocher.
Aux éditions du Rocher?
Non, c'est Bruno du Rocher. C'est un poète juif polonais qui a passé 6 ans en camp de concentration est revenu au second de concentration et a fondé les éditions Caractère à Paris, que j'ai bien connu. Et je sais qu'il m'avait dit, tu vois, même en Occitanie, il y a des poètes. Et je ne savais pas, enfin, que plus tard, j'aurais à connaître donc l'œuvre posthume de Gilbert Azam. Voilà. Mais il faut savoir que c'est à Paris, c'est aux éditions Caractère de Paris qu'il a publié d'Occitanie, Gilbert Azam, par Yorochet, qui s'appelait en définitive Kaminski. C'était, qui veut dire en polonais, roche, rocher. Voilà. Et qui est aussi un poète mystique. Voilà. Coïncidence assez troublante.
Oui.
Parce que vraiment, c'était, ça a été aussi, Bernard Durocher, c'était un homme qui a beaucoup souffert. C'est 6 ans de camp de concentration. Mais ensuite, 6 ans, il est revenu en Pologne sur le régime communiste, et le régime communiste ne lui a pas permis de repartir pendant 6 ans. Voilà. Donc je crois que les deux, en définitive, se sont rejoints peut-être dans ce sens de la souffrance et de la confiance, de l'espérance en Dieu.
Voilà. Ce que, la transcendance de Dieu.
La transcendance de Dieu. Voilà.
Moi, je dirais qu'il n'y a pas de coïncidence. Oui. Il n'y a que des ponts.
Oui, certainement.
D'une berge à l'autre.
Tout à fait raison.
Une continuité de ponts.
Tout à fait raison. Si vous le permettez, il nous reste combien de temps? Il nous reste 3 minutes. On pourrait peut-être finir sur les derniers. Si vous êtes bien, on pourrait finir sur les derniers vers de ce remarquable recueil donc posthume, La Marche à l'étoile, de Gilbert Azam, collection Espartaud, aux éditions Hasard Atelier. Ô présence ineffable, en qui la création sans cesse se soutient de ta respiration, tu me parles pourtant à travers chaque chose. Et tu réponds sans fin aux questions que je pose, car dans ta charité, tu m'as laissé le choix de combler du néant avec l'être de toi. Saurais-je déchiffrer ton immense poème, entendre les secrets que me révèle même le nom que je prononce qui a ton contour? Que de tourments encore en attendant le jour? Quelle croix ou souffrir tant de tensions cruelles? Entre cette clarté et la lourdeur charnelle, me voici explorant un domaine inconnu où devient neuf par toi ce que j'ai déjà vu. Et la prostituée justifie qu'on acclame cette vierge ignorée qui lui redonne une âme. Et ma pensée d'antan, ouverte aux vanités, en un contraste amer à ta réalité, attendait sans savoir, comme elle, que tu viennes, ainsi que fait le jour à travers la persienne, mêler à sa ténèbre un peu de ta clarté. Plénitude radieuse et promesse d'été, ô enfant des enfants, être de tous les êtres, tout procède de toi pour en toi disparaître. Éternel mouvement des paraboles d'eau, rythme de vie à fleur de peau, rythme révélateur de joie sous les tristesses, et qui déferle et croît et couvre les détresses. Rythme de la cantate et rythme dans les cieux, rythme des jours, des mers, et rythme aussi de Dieu. Rythme qui me provoque à exister, à dire ce pourquoi je suis là, le verset qui expire à la pointe du mot, l'accouchement du sens, l'étoile qui scintille et me crée mon Orient. Sur ce ventre brisé, comme une hostie vivante, je te consacrerai notre chair frémissante. Rien n'a changé en moi au cours de cette nuit. Je n'ai fait seulement que me tourner vers lui. Voilà, c'est la nuit de Noël, bien sûr. Ainsi s'achève donc cette émission. Merci à Monsieur l'abbé Meyer, merci à Monsieur Pierre Viguier, merci à Madame Elisabeth Aragon d'être venue parler de ce remarquable recueil, La Marche à l'étoile, de Gilbert Azam, collection Esparto aux éditions Hasard Atelier. Ce recueil vous coûtera la somme de 15 euros à lire sans attendre. Ainsi s'achève l'émission Les Poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine à distance.